Mira, Vierge et Martyr, de Jules Lemaître. Veillez et priez, car les temps sont proches. Les signes se multiplient, et malheur à ceux qui ont des yeux pour ne pas voir. Des pierres calcinées sont tombées du ciel. Il n'y a plus du sang sur Pouzol et sur Cume. Le ciel est resté rouge pendant toute une nuit, et la fumée va toujours s'épaississant sur les champs phlégréens. Rappelez-vous l'inondation du Tibre, et les tourbillons de vent qui ont ravagé la Campanie, et la peste qui, l'automne dernier, a emporté 30 000 habitants de Rome, et la famine qui a suivi, les arrivages d'Alexandrie ayant été insuffisants, et le tremblement de terre qui a renversé la moitié des maisons de Pompéi, ville de mollesse et de débauche. Et voilà que récemment, une femme de la Subure a mis au monde un pourceau à tête d'épervier. » Et le prêtre Timothée déployait, dans de grands gestes, le manteau rouge jeté sur sa tunique de laine blanche. Les chrétiens l'écoutaient, fixant sur lui des yeux ardents, ou baissant les paupières pour mieux recueillir sa parole. C'étaient des esclaves, de petits marchands, des ouvriers, des hommes de peine. L'assemblée se tenait dans un de ces grands tombeaux où des associations de pauvres gens s'assuraient une sépulture moyennant une légère cotisation annuelle. Des pierres funéraires où étaient gravées parmi les inscriptions des palmes, des agneaux, des poissons et des colombes recouvraient presque entièrement les larges parois du souterrain. Des lampes de cuivre, suspendues par des chaînettes à la voûte de pierre, éclairaient faiblement les têtes nues des hommes et les fronts voilés des femmes. Le prêtre continua. « Je vais vous dire une vision que Dieu m'a envoyée. J'ai vu sortir des eaux une femme assise sur une bête. La femme, vêtue de pourpre, couverte d'or, de perles et de pierres précieuses, tenait à la main une coupe pleine du vin de ses impuretés, car elle avait forniqué avec tous les rois de la terre. La bête était écarlate, elle avait le corps d'un léopard, les pieds d'un ours et la gueule d'un lion, et cette gueule vomissait des blasphèmes contre Dieu, contre son nom, contre son tabernacle et contre ceux qui demeurent dans le ciel. Et les hommes disaient, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et tous l'adoraient, excepté ceux dont le nom est écrit depuis le commencement du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été égorgé. Mais le Seigneur viendra. La séduction infâme sera rejetée dans la mer, et la bête précipitée dans l'état sulfureux qui brûle éternellement. Et le Seigneur bâtira sur la terre, pour ses élus, la Jérusalem nouvelle. » À ce moment, une jeune fille, presque une enfant, assise au dernier rang des fidèles et qui écoutait avec une attention haletante, demanda à voix basse à sa voisine, une femme âgée, toute jaune sous son voile de lin. « Bonne maman, dites-moi si vous le savez. Quelle est la séductrice qui porte une coupe et quelle est la bête écarlate ?»« C'est bien facile à comprendre, petite Mira. La femme, c'est Rome, et la bête, c'est l'empereur Néron. Mais il ne faut pas le dire tout haut. » Mira parut réfléchir. Un pli se creusa entre ses sourcils et une grande tristesse assombrit ses yeux et son front. La messe commença. Timothée, les mains étendues sur l'autel de pierre où étaient le pain et le vin, récita les prières liturgiques. Puis les fidèles vinrent rompre le pain et boire à la coupe, mais Timothée repoussa deux hommes et deux femmes qui s'approchaient à leur tour de la table sainte. « Nos frères et nos sœurs que voici, » dit-il en les désignant du doigt, « ont péché publiquement, et leur pénitence doit être publique. Corvinus a été vu dans un cabaret avec une femme de mauvaise vie. Vulteius a assisté à un sacrifice dans le temple d'Esculape. Materna est allée au jeu du cirque, et Assia a commis le péché d'adultère. » Tous quatre, durant un mois, jeûneront au pain et à l'eau, et pendant le même temps seront exclus de la communion. J'ai honte et douleur à révéler de si grands péchés et à promulguer ces pénitences. À mesure que les temps approchent, la sainteté des fidèles doit être plus parfaite et les fautes sont plus indignes de pardon. La chair est abominable aux yeux de Dieu. Les spectacles et les jeux sont l'œuvre du démon, et le chrétien qui assiste, ne fût-ce que de corps, au culte des idoles, renouvelle la trahison de Judas. Malheur à ceux qui, ayant reçu la lumière, se comportent comme des gentils. Le monde est condamné, qu'il ne soit rien de commun entre le monde et nous, mais attendons avec tremblement le juge qui va venir. » Corvinus, Vulteius et Materna baissaient la tête, Assia sanglotait. Un vieillard, l'évêque Calliste, qui était assis près de l'autel, se leva. Et quoiqu'il eût des rides profondes et une barbe de neige, ses yeux bleus étaient doux et clairs comme ceux d'un enfant. Il dit à Timothée, « Laissez-moi leur parler. » Et à Corvinus, « qu'avez-vous à dire au sujet du scandale que vous avez donné à vos frères ?» Corvinus, jeune, très brun, le cou puissant, répondit « J'ai péché, je le sais, mais il y a des jours où le ciel est si doux et le soleil si beau que j'oublie le mystère de la chute et de la rédemption et que je suis repris, malgré moi, par le plaisir de vivre et de jouir de mon corps. Une femme qui passait m'a fait signe et je l'ai suivie, ne sachant presque plus si j'avais une âme. Mais après la faute, je me suis senti triste à en mourir. Alors j'ai parlé à cette femme de la révélation du Seigneur Jésus. À mesure que je lui parlais, elle détachait ses bras de mon cou et il m'a même supplié de la conduire un jour à l'une de nos assemblées. « Et vous ?» demanda le vieillard à l'autre pénitent. Vultéus, un homme entre deux âges, l'air simple et débonnaire, répondit « Mon beau-frère, qui est idolâtre, voulait offrir un sacrifice à Escula pour obtenir la guérison de sa femme. Il m'a prié de venir avec lui au temple et j'ai cédé, n'osant pas me dire chrétien, et aussi par crainte d'être un mauvais parent. Et certes, je crois que Escula n'est qu'un démon, mais je dois dire que la malade guérit quelques jours après le sacrifice. Et vous, Materna, dites-nous votre péché. » Materna, encore jeune, blonde et grasse, avec des yeux vifs, dont son air de contrition ne pouvait entièrement dissimuler la gaieté naturelle, répondit « Mon mari, que je n'ai pu convertir encore, m'a supplié de l'accompagner au cirque. J'ai refusé d'abord, mais il s'est fâché. Alors j'ai fait ce qu'il voulait, par lâcheté, pour avoir la paix à la maison, et aussi, je l'avoue, par curiosité, car l'empereur lui-même devait ce jour-là conduire un char à 6 chevaux. » À ces mots, Myrrha redressa la tête. Elle espère un peu que Calliste allait demander à Materna comment était Néron et ce qu'elle avait éprouvé en le voyant. Mais le vieillard se tourna vers Assia. « Et vous, ma fille, comment avez-vous pu ?» Assia, grande et souple, ses deux mains sur son visage, continuait à pleurer. Elle répondit, secouée par des sanglots qui faisaient trembler les longs plis de ses voiles. « Je l'aimais. » Calliste se recueillit un instant. « Avez-vous au cœur l'amertume, vous, Vultéus et Materna, de votre lâcheté et de votre curiosité vaine, vous, Corvinus et Assia, de votre impureté ?» Les quatre pénitents firent huit d'un mouvement de tête, mais Assia, soit parce que les larmes l'étouffaient, soit qu'elle fut troublée par quelque souvenir, ne répondit qu'un peu de temps après les autres. « Donc, reprit Calliste, je vous ordonne de prier, pendant une semaine, 2 fois plus que vous n'avez coutume, et de chercher toutes les occasions de secourir les pauvres et les malades. Allez en paix, et ne péchez plus. » Puis, comme à lui-même, « Oui, voilà ce qu'il lui dit. Je le sais, car je l'ai vu. » À mesure que Calliste parlait et montrait sa grande charité, Myrrha avait senti diminuer la peine mystérieuse qui lui gonflait le cœur. Cependant, elle avait encore dans les yeux un reste de préoccupation et d'inquiétude, quand, après la cérémonie, Calliste s'approcha d'elle. « Que le Seigneur te garde, Myrrha, » dit le vieillard. « Mais tu me parais un peu triste. Qu'as-tu donc ?»« Père, j'ai quelque chose à vous demander. Vous ne me gronderez pas. Ce sera la première fois, petite Myrrha. Eh bien, je voudrais savoir si l'empereur Néron est aussi méchant que le croit le prêtre Timothée. Hélas, mon enfant, j'en ai peur. Je suis donc obligé de le haïr. Il ne faut haïr aucun homme, Myrrha. Il faut seulement haïr le péché. » Alors, puisqu'un jour, l'empereur a été bon pour mon père, il ne m'est pas défendu de lui en être reconnaissante. Au contraire, dit Calliste. Mais, reprit Myrrha après avoir hésité un moment, serait-ce un péché que de chercher à voir l'empereur? Le calme visage du vieux prêtre devint subitement sévère et dur. Il répondit d'un ton de colère et de menace. Ce serait un très grand péché, du moins à partir de ce jour, car au nom de Dieu et par l'autorité qu'il m'a donnée sur toi, « Je te défends, entends-tu bien, Myrrha, de chercher à voir celui que tu as nommé. »« J'obéirai, » dit Myrrha, « mais vous ne m'aviez jamais parlé si durement. »« Je n'ai point voulu te faire de chagrin, » dit le vieillard en caressant les cheveux de l'enfant. « Je t'ai parlé ainsi parce que je t'aime. » »« Alors, » dit Myrrha, « appuyez-vous bien sur moi, et n'ayez pas peur de trop peser, je suis forte. » Et le vieillard et la jeune fille, pareils à un Édipe et à un Antigone, sortirent lentement derrière la foule des fidèles. Myrrha avait 16 ans, fille d'une Gauloise qui était morte en la mettant au monde et d'un esclave nommé Styrax, employé dans les cuisines de l'empereur. Elle avait grandi dans le coin des jardins de César, où se serraient les maisonnettes des esclaves et dans les salles souterraines du palais. Elle était comme une fleur humble et délicate poussée sous les pieds de granit d'un colosse. Elle n'avait jamais vu Néron. Elle ne le connaissait que par les conversations des autres esclaves. Elle entendait parler de sa puissance, de ses talents, des banquets et des fêtes qu'il donnait, jamais de ses crimes. Car les murs avaient des oreilles, et le moindre mot imprudent eût été recueilli et rapporté à l'empereur. Elle se le représentait comme un être extraordinaire, unique, mystérieux, terrible et beau, qui menait là-haut, bien loin au-dessus d'elle, une vie triomphale et quasi divine. Et il y avait, dans les sentiments qui lui inspiraient, de l'émerveillement, de l'effroi, une sorte de curiosité immobile et qui n'osait se contenter. Un jour, un plat composé par Styrax plut tellement à l'empereur qu'il voulut savoir le nom du cuisinier, fit appeler le pauvre homme et l'affranchit tout aussitôt à condition qu'il resterait à son service. Ainsi, ce tout-puissant prenait la peine d'être bon. Myrrha en fut pénétrée d'une profonde et tremblante gratitude. Mais Styrax, qui était un homme simple et droit, resta triste et comme effrayé de son aventure. C'est qu'il avait vu de près la gloire de Néron, et dans le flamboiement de la fête, l'empereur vautré, demi-nu, avec un visage de fou, et autour de lui, sur les tapis et au milieu des roses effeuillées, une jonchée de corps terrassée par l'orgie. Et il avait peur de sa liberté, parce que c'était l'ivresse de Néron qui la lui avait donnée. Peu de temps après, Styrax mourut, soit qu'il eût contracté à la chaleur de ses fourneaux quelque lente maladie qui tout à coup se déclara, soit que le chef des cuisines, ce fut le bruit qui courut, l'eût empoisonné par jalousie. La vieille Mamaya recueillit Myrrha chez elle, dans sa petite chambre de la Subure. Elle lui apprit à faire des broderies pour les robes des dames romaines, et c'est de ce métier qu'elles vivaient toutes deux. Galiste habitait la même maison. Il était âgé de plus de 80 ans. Jadis, en Palestine, il avait été préposé au péage d'un pont sur le Jourdain. Là, il avait vu plusieurs fois Jésus et ses premiers compagnons. Comme ils étaient pauvres et qu'ils lui plaisaient par leur simplicité et leur bonté, il les laissait passer pour rien. Néanmoins, il n'avait osé croire d'abord à la bonne nouvelle, et c'est seulement après le supplice de Jésus qu'il s'était donné à lui. Venu à Rome avec l'apôtre Pierre, il l'avait aidé à y annoncer l'Évangile, et depuis que Pierre et Paul étaient retournés en Asie pour visiter les églises, il avait acquis une grande autorité sur les fidèles, parce qu'il était très saint et aussi parce qu'il était désormais le seul, parmi eux, qui eût vu le Christ. Et tandis que d'autres prêtres, tels que Timothée, gouvernaient un peu rudement leurs troupeaux et songeaient à fixer les dogmes de la religion nouvelle afin de rendre l'Église plus forte, Calliste était indulgent aux pécheurs, pourvu qu'il n'y eût point chez eux de malice ni de dureté, et il ne prêchait guère que l'amour de Dieu et des hommes. Et dans toutes les circonstances où il avait à se prononcer, il répétait « Oui, voilà ce qu'il eût fait, voilà ce qu'il eût dit. Je le sais, car je l'ai vu. » La première fois qu'il rencontra dans l'escalier de la maison de Subure sa petite voisine Myrrha, il fut frappé de sa grâce et de son innocence. Il lui parla et n'eut pas besoin d'en dire beaucoup. D'elle-même, l'âme de Myrrha allait au Christ. Le vieillard et la jeune fille se comprirent sans peine et s'aimèrent, étant tous deux charitables et purs. Et c'était Myrrha qui, chaque semaine, conduisait Calliste à l'assemblée des fidèles et qui le ramenait. Calliste et Myrrha suivaient la voie appienne, dallée de larges blocs et bordée de tombeaux, dont la blancheur éclatait çà et là parmi les chênes verts, les ifs et les lauriers roses. Le soir tombait, et devant eux, la ville profilait ses dômes, ses arcs et ses frontons sur le ciel violet. Et ils marchaient vers l'énorme cité, portant sous leur front, eux si humbles, la pensée nouvelle qui devait conquérir cette maîtresse du monde. Myrrha songeait, retombée dans sa tristesse. « Mais, dit-elle enfin, qu'a donc fait l'empereur Néron ? Des choses telles, Myrrha, que je n'oserais te les dire toutes et que tu ne saurais même les concevoir. Mais encore, je ne te parlerai pas de ses plaisirs ni des profanations affreuses et publiques auxquelles il livre son corps. Et il ne lui suffit pas d'être impur. Il voudrait que tout le genre humain le fût avec lui. Sa joie est de flétrir tout ce qu'il peut atteindre. Je ne puis t'en dire davantage. Par lui, Rome entière est devenue un cirque, une taverne, un mauvais lieu. Mais, dit Myrrha, si l'empereur est ainsi, n'est-ce point parce qu'il peut tout ce qu'il veut et parce que la vérité ne lui a pas encore été annoncée? Qui sait, il peut être tout ce que vous dites sans avoir le cœur tout à fait mauvais et sans être méchant ni cruel. Celui-là est toujours méchant, dont l'unique pensée est d'assouvir son corps. Et ta douceur, Myrrha, te vient de ton innocence. Mais au reste, Néron a empoisonné son frère. Il a fait mourir sa femme, qui était une princesse bonne et vertueuse. Il a tué Sénèque et Burrus, ses anciens précepteurs. Or, c'étaient de fort honnêtes gens. Même l'apôtre Paul faisait le plus grand cas de Sénèque. Il avait eu plusieurs entretiens avec lui et espérait l'amener à la foi. Néron en a tué beaucoup d'autres, par jalousie, haine de la vertu ou cupidité. Enfin, il a voulu noyer sa mère, et n'ayant pu y réussir, il l'a fait tuer par un centurion. Il n'est pas seulement le plus infâme des histrions, il est le plus cruel des meurtriers et des bourreaux. Mais qu'as-tu, Myrrha? Et à quoi songes-tu? De ses yeux élargis, la jeune fille semblait regarder quelque chose d'horrible, qu'elle faisait effort pour se figurer, quoiqu'elle en eût peur. Elle murmura d'une voix lente, « Je songe qu'aucun homme n'est plus à plaindre que l'empereur Néron. » Myrrha avait vécu jusque-là fort retirée, entre le vieux Calliste et la vieille Mamaea, et dans la rue elle avait toujours évité de se mêler aux conversations des badauds et des commères devant les échoppes des marchands. Mais maintenant, chaque fois qu'elle sortait pour porter son ouvrage ou faire des emplettes, elle s'attardait dans la foule, écoutait ce qui se disait, et quand elle rencontrait des gens de sa connaissance, les interrogeait sur l'empereur. C'était le barbier Scaevola qui lui répondait le plus abondamment. Sa boutique s'ouvrait au coin de la maison qu'habitait Myrrha. Son métier lui permettait d'être renseigné sur beaucoup de choses, et ses propos résumaient assez exactement l'opinion du peuple sur ce qui intéressait si fort la jeune fille. Oui, c'est vrai, on en dit de toutes sortes au sujet de l'empereur Néron. Il y a d'abord la mort du prince Britannicus. L'affaire a paru louche. Ce n'est pas moi qui vous en dirai le fin mot, attendu que je ne le sais pas. Mais ce que je sais bien, c'est que lorsque deux princes disputent le gouvernement, cela va toujours mal. Comme cela, du moins, nous sommes tranquilles. Il y a aussi la mort de sa mère, mais je n'en sais pas plus sur cette histoire que sur l'autre. Ce qu'il y a de certain, c'est que la mère était une fière coquine et qui ne s'était pas gênée dans le temps pour faire manger à son mari, l'empereur Claude, de mauvais champignons. Sans compter qu'elle voulait régner à côté de son fils et qu'elle se mêlait de choses qui ne la regardaient pas. Ce n'était pas amusant pour lui, il faut être juste. Quant à sa première femme, l'impératrice Octavie, ce qui lui était arrivé est bien malheureux pour elle, mais on ne la connaissait seulement pas. Elle était fière et ne se montrait jamais en public. Aussi, quand on a su qu'elle était morte, cela n'a pas produit grand effet. Enfin, tout cela ne nous regarde point, c'est de la politique. Il faut que quelqu'un soit le maître, n'est-ce pas? Il y en a encore pas mal d'autres dont l'empereur s'est débarrassé, mais c'était des riches et des aristocrates, de ceux qui voudraient qu'on ne fasse jamais rien pour le peuple. Lui, l'empereur, il s'occupe de nos intérêts. Il a fait des lois pour empêcher les avocats de se faire payer si cher. Il aurait voulu supprimer les impôts indirects. Le Sénat s'y est opposé. Alors le prince nous venge en frappant les nobles. Ce n'est pas un mauvais empereur pour nous. Je lui dois d'être libre, ne put s'empêcher de dire Myrrha. C'est lui qui a franchi mon père. Vous voyez bien, reprit le barbier. Et puis on n'a jamais donné tant de fêtes, ni de si belles. Même il paye de sa personne pour nous distraire. L'autre jour encore, aux courses des fêtes de la jeunesse, il a conduit un char. Il a été vainqueur. C'était peut-être arrangé d'avance, mais on lui doit bien cela. Vous l'avez vu, comme je vous vois. Et comment est-il? Ah, ce n'est pas parce qu'il est l'empereur, mais c'est un bel homme. Et un air. On sent qu'il ne faudrait pas lui manquer. On a beau dire, ce n'est pas un homme comme nous autres. Enfin, il fait ce qui lui plaît, et ce qu'il trouve à reprendre, eh bien, qu'il s'en aille causer ailleurs que chez moi. Je ne dis pas cela pour vous, Myrrha. Myrrha était de plus en plus inquiète. Certes, elle ne doutait point de la parole de Calliste, et même les propos du barbier confirmaient sur bien des points ce que lui avait dit le vieux prêtre. Quand elle essayait de se représenter dans leur réalité les crimes de Néron, elle en frissonnait d'épouvante. Elle avait grande pitié des victimes, mais en même temps cela lui faisait presque plaisir de savoir que Néron n'était pas haï du peuple. À force de penser à l'empereur, un désir secret grandissait en elle. Or, s'il pouvait le voir, rien qu'une fois, il lui semblait qu'en le voyant, elle devinerait s'il était vraiment un méchant, ou s'il n'était qu'un malade et un fou. Après, elle serait plus tranquille, non pas qu'elle oubliât sa promesse. Elle était résolue à ne rien faire pour le rencontrer, et du reste, elle avait à peine conscience de son propre désir, tant il s'y mêlait de terreur. Elle ne croyait donc pas mal agir le matin où elle alla faire visite au vieux Ménalque, un ancien ami de son père. Ménalque était un des jardiniers de Néron. Il demeurait au coin d'une grande terrasse, dans une maisonnette cachée par des arbres. et l'on pouvait entrer chez lui sans passer par le jardin impérial. Mira porta à la petite fille du bonhomme une poupée d'argile qu'elle avait habillée comme une patricienne, mais la vérité c'est qu'elle venait pour parler de Néron. Aussi ne tarda-t-elle pas à raconter à Ménalque tout ce que Calliste lui avait dit, et elle ajouta « Tout cela est-il vrai ? Vous devez le savoir, vous qui êtes ici depuis si longtemps, et à qui les esclaves du palais ont coutume de faire leur confidence. » D'un geste brusque, Ménalque entraîna Mira au fond de la chambre, regarda tout autour de lui, et se penchant à son oreille, murmura très bas « Oui, tout ce qu'on dit est vrai, et je sais des choses plus terribles encore. » Puis sans remarquer la pâleur subite de la jeune fille, « Je n'en parle jamais, désirant mourir en repos. » Et détournant brusquement l'entretien, « Mais puisque vous voilà, vous plairait-il de vous promener un peu aux alentours ? C'est la partie du jardin la plus éloignée du palais, et l'empereur n'y vient jamais, du moins à cette heure de la journée. »« Je veux bien, » dit Mira. Ménalque sortit avec elle, puis la quitta pour aller à son travail. Une vaste avenue bordée d'arbres géants se déroulait du palais jusqu'à la terrasse et se terminait par un haut portique d'où l'on dominait toute la ville. Vers le milieu de l'avenue s'étendait un large bassin circulaire où des tritons de bronze aux croupes écailleuses vomissaient l'eau en vibrantes fusées. De chaque côté, à des intervalles réguliers, des dieux, des déesses, des satyres et des nymphes dressaient leurs corps blancs. Mira n'osait les regarder, redoutant leur immodestie ou de peur de trouver de la beauté dans ces représentations d'idoles. Et d'ailleurs, bien qu'elle fût seule, elle était toute timide à cause de la pompe et de la majesté du lieu. Tout à coup, elle entendit un bruit de voix et vit déboucher dans l'allée une bande de promeneurs magnifiquement vêtus. Vite, elle se jeta derrière un massif de feuillage. Bientôt, ces hommes passèrent devant elle. D'abord l'empereur, appuyé sur un bel adolescent au teint de cuivre, aux longs yeux et à la bouche écarlate. Puis, à distance de quelques pas, ses compagnons habituels, Othon, Sénétion, Tigellin, avec des visages pâles et fins, la démarche molle et balancée. Mira ne voyait que Néron. Elle le reconnut à sa ressemblance avec les effigies des Monets, et surtout à l'air et à l'expression de son visage. D'étroites frisures noires dentelaient son front bas, dur et lisse. La voûte nette et profonde des sourcils faisait une ombre à ses yeux verts, tout alanguis de rêve. La mâchoire était large, le menton saillant, la lèvre lourde. Il y avait en lui du dieu et de la bête. Des broderies d'or brillaient doucement dans les plis de sa toge de soie blanche. Un collier de rubis faisait rouler sur sa poitrine des gouttes de sang et de feu, et la main grasse qu'il appuyait sur l'épaule du bel enfant brun jetait des étincelles à chaque pas tant elle était chargée de joyaux. Mira, quoiqu'elle ne fût qu'une ignorante petite fille, eut l'impression que cet homme était infiniment éloigné d'elle, non seulement par sa condition terrestre, lui maître du monde, elle si obscure et si pauvre, mais par le fond même de sa pensée et de son âme, et en même temps, elle fut frappée de l'immense tristesse de ce Tout-Puissant. Ce qui se passait en elle était étrange. C'était comme si elle eût eu pitié de lui, de très bas, en tremblant, et comme si sa pitié eût eu à traverser l'infini d'un monde. Au moment où il longeait le massif derrière lequel elle était blottie, Néon parlait. Il parlait pour lui seul, sans se retourner vers ses compagnons, et voici ce que Mira entendit. « Je m'ennuie. Ma puissance est trop limitée. » Les plaisirs que je puis me procurer, j'en suis rassasié, et ceux que je rêve sont irréalisables, même pour moi. Je suis plus riche que les anciens rois de Perse, mais quoi que je fasse, je ne tiendrai jamais entre mes mains tous les trésors de l'univers. Il y a dans les voluptés des sens un degré suprême où j'atteins quelquefois à force d'artifice, mais où je ne puis me maintenir. J'ai fait mourir beaucoup d'hommes, mais je ne puis tuer tous mes ennemis, car je ne les connais pas tous. Je suis le plus grand des poètes, mais je suis obligé, pour composer des vers, de choisir les mots avec effort et de compter et de mesurer les syllabes. Je suis le plus harmonieux des chanteurs, mais je suis obligé, pour conserver mon admirable voix, d'user sobrement de vin et de me priver de nourriture que j'aime. Tout cela est absurde et irritant. Je suis bien malheureux. J'insulterais les dieux si les dieux existaient. Être le plus grand des hommes et n'être que cela, oh rage! Que ce jardin est mesquin et qu'il est monotone. Je voudrais des jardins si vastes qu'on y verrait des forêts, des fleuves, des montagnes et des lacs, et que tous les plus nobles aspects que peut prendre la face de la terre s'y trouveraient réunis, d'autant plus beaux qu'ils seraient l'œuvre non de la nature, mais de l'art. et qu'on y sentirait la puissance et la volonté d'un homme. Il était arrivé au bout de la terrasse, sous le portique de marbre. Il se pencha sur la balustrade et regarda à ses pieds la houle immobile des toits se déroulant jusqu'à l'horizon. « Que cette ville est laide !» Et il ajouta « Je la brûlerai !» Le lendemain, Mira la trouvait Calliste dans sa pauvre chambre et, s'agenouillant, lui dit « Père, j'ai gravement péché. »«
Oh ! » dit le bon Calliste, « je ne te crois pas. » »«
Il n'est pourtant que trop vrai. J'ai manqué à la promesse que je vous avais faite. J'ai vu Néron. » Le vieux prêtre eut un sursaut d'étonnement et d'effroi. « Et lui, t'a-t-il vu ?»«
Non, car j'étais bien caché. »
Le visage de Calliste se rasséréna. « Remercie Dieu, » dit-il. Il demanda à la jeune fille où et comment elle avait fait cette rencontre, et elle le lui expliqua de point en point. « Mais, reprit-il, quand tu es allé chez le jardinier Ménalc, désirais-tu voir l'empereur ?»«
Je crois que oui, mais je désirais le rencontrer par hasard. »«
Pourquoi ?»« Je ne saurais le dire. » »«
Et lorsque tu t'es promené dans le jardin, savais-tu que tu le verrais ?»«
Comment l'aurais-je su ?»«
Mais au moins tu l'espérais. »«
Je n'en sais rien. » »«
Alors pourquoi dis-tu que tu as gravement péché ?»
C'est que j'ai perdu la paix, et que je suis troublé comme si j'avais commis une grande faute.
Oh, Mira, il est donc vrai que nous portons en nous des sentiments et des pensées, ignorés de nous-mêmes, et que l'âme la plus limpide et la plus pure a ses ténèbres.
Prions Dieu, qui nous accorde de nous connaître tout entier, et de ne rien souffrir en nous qui lui déplaise. Mais dis-moi, qu'as-tu éprouvé en voyant le plus grand ennemi de Dieu ?
L'avouerai-je, ô Père ?
J'ai d'abord été ébloui par sa beauté, et par la magnificence de ses habits. Puis il s'est mis à parler, et bien que le sens de quelques-unes de ses paroles m'ait échappé, j'ai compris qu'il devait être réellement coupable des impuretés et des cruautés dont on l'accuse. Mais aussi j'ai compris qu'il souffrait. Si cela est vrai, ce n'est que justice.
Je n'oserais donc pas vous dire une pensée qui m'est venue.
Parle, Mira, je le veux.
Eh bien, peut-être que s'il a commis tant de crimes, c'est parce qu'il est l'empereur et qu'il voit le monde entier au-dessous de lui.
Et alors il ne serait pas plus méchant, même en commettant ses crimes, que ne le sont les autres hommes en se laissant aller à des fautes ordinaires.
À ce compte, Mira, si Dieu t'avait fait naître impératrice, tu serais devenue la plus méchante des femmes.
Oh père, que dites-vous là?
Tu vois bien.
Mais l'empereur, lui, ne connaît pas la bonne nouvelle. Peut-être l'écouterait-il si elle lui était annoncée. Ne le croyez-vous pas?
Non, Mira, je ne le crois point. Il a mis dans toutes ses actions une si profonde et si noire malice
qu'il a d'avance repoussé la grâce de Dieu.
Cependant, il a dit une chose qui ne vous aurait pas déplu.
Il a dit qu'il ne croyait point aux idoles.
Hélas, il serait moins éloigné du vrai Dieu s'il croyait seulement aux autres.
Mais on dit qu'il a voulu supprimer les impôts, par pitié pour les pauvres.
Dit par orgueil, et pour être applaudi de la population du cirque, il feignait la pitié par une comédie sacrilège.
Et d'ailleurs, il n'aurait pu soulager les pauvres de Rome qu'en pressurant davantage ceux des provinces.
Mira réfléchit. Elle se souvint du mot de Néron, « Je brûlerai Rome ». Mais elle ne le dit point à Calliste. Elle reprit,
« Je vois bien qu'il est le plus criminel des hommes, le seul peut-être dont la damnation soit assurée. Mais cela n'est-il pas effroyable à penser? S'il est, comme vous le dites, irrémédiablement méchant, s'il l'est avec application et sans remords, quoi de plus triste que d'être ainsi? Et puisque Dieu savait qu'il serait méchant à ce point, pourquoi donc l'a-t-il mis au monde ?»
Ceci, Mira, est un grand mystère. Dieu a voulu sans doute éprouver par là la vertu de ses serviteurs. Je ne sais rien de plus.
Mais, dit la jeune fille, à demi-voix, et comme hésitant devant sa pensée, peut-être bien que l'empereur Néron n'a point d'âme, et que lorsqu'il sera mort, il retombera dans le néant. Il ne serait alors qu'un fléau, comme la tempête ou les tremblements de terre. Dieu ne peut-il envoyer aux hommes l'épreuve qui les fortifie, sans que l'ouvrier de cette douleur d'un jour soit lui-même condamné à la souffrance éternelle.
Calliste était si surpris qu'il ne trouva rien à répondre.
« Enfin, poursuivit Mira, ce sont des choses où je ne comprends rien. Pourtant, il est des hommes et des femmes qu'il aime. Il a de lui-même donné la liberté à mon père. Il est beau et on dit qu'il a beaucoup d'esprit. Si l'on pouvait, est-ce un péché de croire que tout homme, quoi qu'il ait fait, peut encore être sauvé ?
Non, certes. Dit Calliste.
Et serait-ce un péché de prier pour Néron et de s'imposer des pénitences dont on lui appliquerait le fruit?
Pas davantage, mais ce serait, je crois, fort inutile.
Et si quelqu'un offrait sa vie à Dieu avec l'espoir que Dieu
voudra bien, en échange, accorder à l'empereur une chance de salut. Ferait-il quelque chose de répréhensible ?
Laisse ces pensées, Mira, je t'en conjure. Prends garde qu'il n'y entre un peu d'orgueil
et beaucoup de vaine curiosité. Contente-toi d'être une enfant modeste, pieuse et attachée aux devoirs de ton état, comme tu l'as été jusqu'ici. Et promets-moi de nouveau, et plus sérieusement que la première fois, de ne plus jamais chercher à revoir l'empereur Néron. Ce n'est qu'à cette condition que je puis t'absoudre.
Je ferai, père, ce que vous voudrez, mais ce n'est pas ma faute. Depuis que je l'ai vu, je pense toujours à lui.
Un jour, Mira était allée porter des broderies à une dame dans une maison de campagne des environs de Rome. Comme elle s'en revenait le soir, elle vit dans le ciel une grande lueur rouge. À mesure que Mira approchait de la ville, cette lueur allait s'élargissant. Bientôt elle remplit le ciel tout entier. Les arbres du chemin que suivait la jeune fille en furent violemment éclairés et son ombre marchait à son côté aussi nettement découpée qu'en plein soleil. À un détour du chemin, elle vit devant elle Rome qui brûlait. La flamme avait jailli dans la partie du grand cirque contiguë au mont Palatin et au mont Sollius. Elle avait dévoré ce quartier aux ruelles tortueuses dont les maisons se joignaient presque par leurs fêtes, s'y engouffrant et s'y allongeant comme dans les tuyaux d'une cheminée de cyclopes. Maintenant elle enveloppait le Palatin, pareil à une île dans une mer de feu, et tandis qu'elle en léchait les flancs, elle envahissait tout autour le Vélabre, le Forum et les Carines. Enfin elle escalada la colline impériale et là, d'un élan furieux, sembla jaillir jusqu'aux étoiles. Puis, en vaste coulée, elle redescendit vers la Subure. Et Rome était comme une prodigieuse fournaise dont les charbons auraient eu la forme de dômes, de frontons, de portiques et de murailles percées de trous. Comme elle passait sous le mur d'une haute terrasse où s'élevait une tour carrée, Mira entendit quelqu'un chanter au sommet de cette tour en s'accompagnant de la lyre. C'était un chant triste et lent, dans une langue qu'elle ne connaissait pas, une élégie de Simonide sur l'incendie de Troie. La voix, harmonieuse, quoique un peu voilée, se traînait et gémissait. Mira s'arrêta pour l'écouter, mais elle sentit bientôt que cette douleur était feinte et que le chanteur admirait lui-même la beauté de sa voix. Et alors ce chant lui fit mal. Lorsqu'elle arriva à la porte Capène, elle y trouva une foule désespérée de gens du peuple campés parmi les pauvres meubles et les paquets de hardes qu'ils avaient pu arracher à l'incendie. Beaucoup pleuraient en racontant que quelqu'un des leurs, une vieille mère, une femme, un petit enfant, n'ayant pu s'échapper, avait péri dans les flammes. Un homme disait « Je suis sûr qu'il en est bien resté 300, rien que dans le quartier des Esquilies. » Mais, disait un autre, il faut tâcher d'éteindre le feu, ou du moins lui faire sa part en démolissant les maisons qu'il menace, afin de sauver le reste de la ville. On lui répondit, nous avons essayé, mais il y a des hommes qui empêchent d'approcher ceux qui voudraient porter secours. Ils disent qu'ils ont des ordres. Et Mira se rappelait la parole de l'empereur. Il avait donc fait ainsi qu'il l'avait dit. Assurément, ce crime dépassait tous les autres. Et ce crime, elle le voyait, elle le touchait. Il s'étalait, là, sous ses yeux. Alors, le cœur serré de compassion pour les victimes, elle songea. « N'est-ce pas, Seigneur, que vous ouvrirez à tous ces malheureux votre saint paradis et que leur souffrance aura passé comme un mauvais rêve? Mais lui, lui,
s'il en est temps encore, je vous offre ma vie pour qu'il vous plaise de lui envoyer un rayon de votre grâce. »
Elle regagna la Subure par un long détour, très en peine de Caliste et de Mamaea. Ils étaient tous deux sains et saufs, mais la maison qu'ils habitaient avait été brûlée. Un grand nombre d'autres chrétiens étaient sur le pavé. Caliste les consolait et les encourageait. « Bénissons Dieu, disait-il, de nous avoir enlevé le peu que nous avions de ces biens terrestres auxquels on tient toujours trop. Puis la détresse commune nous est une occasion de nous aider les uns les autres et de montrer que nous nous aimons. » L'empereur permit aux incendiés de s'installer dans les temples qui étaient encore debout et dans les marchés. Il leur ouvrit aussi une partie de ses jardins. Il fit construire pour eux des baraques en bois sur le forum et leur fit distribuer des vivres. Mais cela n'empêchait point le peuple de dire que c'était Néron qui avait mis le feu à la ville et que même il avait chanté en regardant l'incendie du haut d'une tour. Ces propos rappelèrent à Mira le chant d'Histrion qu'elle avait entendu sur son chemin. Mais à ceux qui accusaient l'empereur, elle répondait, essayant de se tromper elle-même. S'il avait allumé l'incendie, mettrait-il tant de zèle à secourir les victimes? Il ne s'apercevait pas de la faiblesse de ce raisonnement. Les chrétiens, ne voulant point se retirer dans les temples des faux dieux, ni s'abriter sous les baraques en haine des mains impies qui leur offraient ce secours, se réfugièrent dans leurs tombeaux. Mira et Mamaya continuèrent à faire des broderies pour les dames romaines, ce qui leur permit de vivre et même de soulager leurs frères indigents. Or, malgré leur grande misère, beaucoup de chrétiens se réjouissaient de l'incendie, tant ils détestaient Rome, la ville impure. Surtout le prêtre Timothée exultait d'une joie sombre. Il dit un jour aux frères assemblés « La main qui allumait ce feu peut être abominable, mais elle n'a rien fait que par la volonté de Dieu, car voyez, les plus anciens temples des idoles, ceux que la malice ou l'ignorance des infidèles vénéraient le plus, ont été détruits de fond en comble. Brûlez le temple de la lune, bâti par Servius Tullius. Brûlez le temple consacré à Hercule par le roi Evandre. Brûlez le temple de Jupiter Stator élevé par Romulus. Brûlez le palais de Numa Pompilius et le temple de Vesta. Ceci, plus clairement que tout le reste, nous annonce la fin du monde, laquelle doit arriver par le feu, et cette fin sera le commencement de notre victoire et de notre joie. Mon frère, dit Calliste, vous avez peut-être raison, mais comment se réjouir d'un événement qui a apporté tant de souffrances aux humbles, à ceux que Jésus aimait ? À ce moment, des soldats, conduits par un centurion, envahirent le lieu de l'assemblée. Nous vous arrêtons par ordre de l'empereur, dit le centurion. Pourquoi ? Demanda Calliste. Parce que c'est vous, les chrétiens, qui avez mis le feu à la ville. Et désignant Timothée, les discours de ce misérable ne le prouvent-ils pas ? Mira avait cru que le dernier crime de Néron était le plus grand qu'on pût concevoir. Or, il venait de faire quelque chose de plus effroyable encore, en accusant de ce crime des innocents. Et c'est pourquoi elle dit à Dieu, « Pour lui, pour son salut, non seulement ma vie, Seigneur, mais toutes les tortures qu'il vous plaira !» Les soldats emmenèrent donc les chrétiens et les jetèrent pêle-mêle dans les souterrains de la prison mamertine. Et Mira éprouvait un obscur plaisir à songer qu'elle était prisonnière par le commandement de Néron, car c'était la première fois que la volonté du tout-puissant César agissait directement sur son humble destinée. Toujours elle revoyait, plus belle dans son souvenir, la tête terrible et triste de l'empereur, et elle espérait comparaître devant lui pour être interrogée. Souvent, dans la prison, le prêtre Timothée, entre deux prières, s'emportait en imprécations contre Néron et repassait ses crimes, et jamais il ne l'appelait autrement que la bête. Et bien qu'elle sût que Timothée avait raison, Mira souffrait cruellement. Mais une fois, un des prisonniers émit cet avis que c'était l'impératrice Poppée qui avait persuadé à Néron d'accuser les chrétiens, parce qu'ayant été initiée à la religion juive, elle haïssait les disciples de Jésus. Il raconta que l'empereur aimait éperdument Poppée, que pour elle il avait tué sa première femme, qu'il ne lui refusait jamais rien, et que récemment il lui avait donné 300 ânes pour prendre des bains de lait. Et bien que l'intervention de Poppée diminua un peu le crime de Néron, Mira, ce jour-là, souffrit encore davantage. « Oh, cette juive » dit-elle. Les prisonniers comparurent devant un proconsul, ce qui fut une grande déception pour Mira. Il se contenta de leur demander s'ils étaient chrétiens et les condamna à être exposés au lion dans le grand cirque. « L'empereur y sera-t-il » demanda Mira à l'un des geôliers. « L'empereur ne manque pas une de ses fêtes, » répondit l'homme. Une grande joie illumina le visage de la jeune fille. Ce pâle et diaphane visage, où il n'y avait plus de place que pour les grands yeux ardents aux paupières violettes et pour la petite bouche toujours entr'ouverte par le léger allaitement d'un angélique désir. Elle ne voyait plus clair dans ses pensées. Il lui était doux de mourir pour un si grand coupable et d'accomplir ainsi son vœu. Mais mourir par lui n'était-ce pas horrible ? Non, car sans doute son supplice était aggravé par là. Mais il serait plus méritoire et plus efficace, et à cause de cela, il ne serait donc plus douloureux. Enfin, elle ne savait plus. Parfois, elle était prise d'épouvante. Elle ne comprenait pas que Néron ne lui fît pas horreur. Elle n'entendait, ne voyait plus rien, vivait dans une fièvre et dans un rêve. Le vieux Calliste la considérait avec inquiétude. Depuis longtemps, elle ne lui avait point reparlé de l'empereur Néron, mais il sentait bien qu'elle n'avait pas d'autre pensée. Il se demandait s'il ne fallait voir dans cette étrange préoccupation qu'un miracle de la charité, et il n'osait l'interroger, craignant d'être inhabile à scruter cette âme et de la troubler rien qu'en y touchant. La veille du supplice, après la prière du soir que les condamnés faisaient en commun, Mira dit à haute voix « Prions pour l'empereur Néron ». Les chrétiens hésitèrent un instant, mais le prêtre Calliste songea en lui-même. J'avais tort d'être inquiet, Mira est plus sainte que nous tous. Et il commença la prière pour l'empereur, et les autres chrétiens la récitèrent avec lui. Or, en entendant cela, un geôlier qui se tenait près de la porte, c'était un Gaulois très grand et très blond, se mit à pleurer et pria Mira de lui expliquer la religion du Christ. Le lendemain, on conduisit les chrétiens dans une prison basse située sous l'amphithéâtre du Grand Cirque. À travers les barreaux, Mira voyait l'arène éclatante de lumière et, sur les gradins qui s'élargissaient en cercle, tout un peuple assis, sénateurs, chevaliers, soldats, plébéiens, vestales et courtisanes, en capuchon de laine, en tunique fauve, en manipule de soie. Une foule grouillante et bourdonnante que des voiles, tendue dans l'air et soutenue par des cordages, baignait de mobiles reflets rouges. Elle aperçut en face le bas des lourds tapis retombant de l'estrade impériale et un peu sur le côté, derrière d'autres barreaux, dans les demi-ténèbres, des lions qui passaient et repassaient. Les autres condamnés priaient, prosternés par groupes ou s'embrassaient avant de mourir, et dans ce voisinage de la mort, bien que leur volonté demeurât ferme, plusieurs pleuraient, sanglotaient, étaient secoués de grands frissons. Timothée et Calliste les exhortaient. Timothée leur disait « C'est une joie de signer sa foi de son sang, en bravant la colère impuissante de l'impie. Ce sang criera contre lui. Encore une fois, les temps sont proches. Et qu'est-ce qu'un moment de souffrance pour une vie éternellement bienheureuse ? Imbécile et lâche qui refuserait le marché. » Et Calliste « Ô mes frères, Dieu vous ménage. La mort qui vous attend, qu'est-ce après tout que la mort d'un chasseur surpris dans un bois ? Nous marcherons tous ensemble, si fortement unis dans une même pensée d'amour, que nous ne sentirons point la griffe ni la dent des bêtes. Et Dieu, avec votre sang, fera de si grandes choses. Vous fondrez en mourant le bonheur et la paix de l'humanité future. » Mais Mira restait à l'écart, debout près de la grille, étrangère à ce qui se passait autour d'elle. Des belluaires ouvrirent en même temps la porte de la prison et celle de la cage au lion, et tout à coup il se fit un grand silence. Mira, la première, entra dans l'arène. Elle vit l'empereur sur l'estrade, et tout droit d'un pas égal et léger, elle marcha vers lui. Elle pensait « Il faudra bien qu'il me voie, et ce sera près de lui que mon âme s'exhalera pour sauver la sienne. » Calliste la suivait, aussi vite que le lui permettait la faiblesse de son âge. Les lions étaient sortis de la cage, et d'abord aveuglés par la lumière subite, les uns s'étaient arrêtés, les autres tournaient au hasard, le mufle bas. Mira marchait toujours, les yeux attachés sur Néron. L'empereur, à demi penché vers l'un de ses compagnons, sentit ce regard et se retourna. Il crut que la jeune fille venait lui demander grâce et eut un méchant sourire. Mais elle arriva, sans dire un mot ni relever ses mains unies jusqu'au pied de l'estrade, et là, immobile, elle continuait à le regarder. Ses cheveux dénoués pendaient sur son dos, et une déchirure de sa robe découvrait son épaule délicate. L'empereur avança un peu sa tête de dieu bestial. Une courte flamme s'alluma sous ses paupières lourdes. Il se leva, et appelant par son nom le chef des belluaires, fit un geste de grâce. Un des lions, ayant aperçu Mira, s'approchait à grands pas obliques. Alors, le vieux Calliste, qui avait compris le geste de l'empereur, saisit Mira dans ses bras maigres et de toutes ses forces. Il la poussa vers le lion. C'est ainsi que se termine Mira, vierge et martyre, de Jules Lemaître.